Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2014, au mois de mai, Jean Houry mourait à Courcheverny, dans le Loir-et-Cher, à la clinique de la Borde qu'il avait fondée et qu'il dirigea jusqu'au bout. L'archive que nous allons entendre fut diffusée moins d'un mois avant sa disparition. Un documentaire que sa productrice, Jeanne Aptkman, avait intitulé « La Borde, une clinique psychiatrique toujours hors norme » pour dire que 60 ans après sa fondation, elle tenait toujours bon, mais sans doute aussi, comme c'était le cas de sa voisine, la clinique de la Chênaie, pour souligner que son mode de fonctionnement faisait d'elle une exception parmi les établissements accueillant des malades mentaux. Dans cette émission, à 90 ans et bien que malade, Jean Houry se montrait lucide et combatif, comme au premier jour de la Borde, pour rappeler dans quelles circonstances il avait fondé cette clinique et pour présenter son fonctionnement, cette psychothérapie institutionnelle héritée après-guerre de son passage à l'hôpital de Saint-Alban auprès de François Toscaïès. Dans ce documentaire vivant, comme pourrait l'être tout établissement psychiatrique, se mêlaient les voix des soignants et des soignés, ou plus exactement des payants et des payés, comme le disait Jean Houry. Des voix qui racontaient comment, au début du XXIe siècle, la vie suivait toujours son cours à la Borde, en dépit des nombreux bâtons glissés dans ses roues trop libres. Sur les docks, la Borde, une clinique psychiatrique toujours hors norme, diffusée le 10 avril 2014 sur France Culture.
C'est toi, mon gros.
Il est bien.
Viens, mon garçon. Donne, il faut donner son pied. T'es gros, grosse patate. Donne.
Vous ?
Bonjour, vous l'appelez comment ?
Et vous ? Ah ah ! Un secret ?
Coda, on l'appelle Coda. C'est Odea. Et chaque semaine, on fait le vendredi après-midi, on fait une assemblée générale. Comité d'accueil, on appelle ça. Et à chaque fois, encore vendredi dernier, elle m'amène une boîte avec 6 œufs. Et là, je lui paye, elle me donne la boîte.
Il n'y a plus beaucoup d'autres animaux, il y a des poules. Là, il n'y a plus beaucoup et tout. Alors, ils sont un peu bout de cou dans la boue. Il faut faire attention, ça, que ça ne pourrisse pas. Il faut mettre du goudron dessus. Tout est fragile. Il y a des gens aussi, on croit qu'ils sont solides. C'est un article sur quoi vous faites ?
La Borde, une clinique psychiatrique toujours hors norme.
Sur la Borde, c'est vaste, quoi. Vous voulez parler quoi ? De la situation, de la maladie, du travail ?
Un documentaire de Jeanne Aptekman et Christine Robert.
Bah, comme partout, on essaye de vivre. Tu veux que je te dise ?
On soigne pas un schizophrène en 15 jours. C'est un monde d'une complexité extraordinaire, d'une richesse extraordinaire. Il y a des toutes petites choses qui peuvent avoir une importance énorme, qui n'en a pas pour nous, mais il suffit d'un tout petit détail et c'est une catastrophe. Dans la schizophrénie, c'est souvent comme ça. Si on les attache, ça déclenche des fureurs et ça ne fait qu'augmenter. Alors là-dessus, les doses neuroleptiques, à n'en pas finir. On voit bien que des gens, c'est par les enfermant et les attachant qu'on va les améliorer.
Ça marche.
La Borde est un nom que j'ai souvent entendu, enfant, sans trop savoir à quoi il renvoyait. Il résonnait pour moi comme celui d'un lieu magique et libre. Pourtant, La Borde, c'est le nom d'une clinique psychiatrique.
Ah non, j'ai pas fait l'introduction.
La Borde a été fondée par Jean Houry après-guerre. Il y a développé ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Tout de suite, la prise en charge des malades s'est accompagnée d'une réflexion sur l'autorité, sur la vie en collectivité, sur la liberté. Dans les années 70, C'est devenu une sorte de repère intellectuel. Beaucoup de gens y allaient, venaient voir. Certains y restaient parfois. La folie, l'enfermement étaient alors des thèmes qui interrogeaient toute la société. À Laborde, ces questions étaient centrales depuis longtemps. Dans ce vieux château sans grille où les malades circulaient librement, ils trouvaient un écho à leurs questionnements. Aujourd'hui, la folie ne questionne plus la société. Elle la dérange, elle lui fait peur. Le principe de précaution nous dicte de ne pas prendre de risques, aux antipodes de la démarche de Jean Houry, qui continue de se battre pour une autre vision de la folie et du soin.
Je suis arrivé en septembre 47 à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère, où travaillait François Toscaïès. Et c'est là que ça a commencé, la psychiatrie. C'était les psychiatres qui ont transformé l'hôpital de Saint-Alban en disant que pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital.
L'hypothèse qu'avait faite Toscaïès il y a longtemps, qui a donné naissance ensuite à Laborde, hein, on pourrait dire.
Jean-Claude Polac, psychiatre.
Puisque Laborde fonctionnait sur les deux jambes dont parlait Toscaïès, le psychiatre catalan qui a lancé le mouvement de psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire une approche sociologique de l'institution qu'il faut traiter comme si elle était elle-même malade, et une approche psychanalytique aussi des problèmes de la psychose. Toscaïès, à Saint-Alban, qui était un très vieil hôpital, et il l'a transformé littéralement en partant du principe que les malades à l'hôpital ont tous les risques de s'aggraver plutôt que de s'arranger, quoi. Parce que l'hôpital est une structure pathogène, au fond. Voilà l'idée. Que l'institution était porteuse, au fond, de toutes sortes de germes, hein, d'aliénation, de folie, de troubles, etc. Donc, à Laborde, ce principe était tout à fait important. C'est que pour s'occuper des malades mentaux, il fallait commencer par traiter les gens qui s'occupaient d'eux et l'institution dans laquelle ces malades allaient être accueillis.
Parce que au début des années 40, à Saint-Alban, c'était l'horreur. Il y avait des cellules, des quartiers fermés, des gens attachés, aucune vie collective. Et tout ça avait été remanié pendant la guerre, pendant l'occupation. C'est le début essentiel. Il y avait déjà un club, il n'y avait plus de cloisonnement, les quartiers étaient ouverts, il n'y avait plus de cellules, il n'y avait plus de contention, plus rien. L'open door, c'est-à-dire la porte ouverte pour aller se ravitailler. C'est pour ça qu'à Saint-Alban, pendant la guerre, il n'y a pas eu de mort de faim. Parce que les gens pouvaient sortir, se ravitailler. Tandis que dans la plupart des hôpitaux, il y a eu entre 50 à 60 000 morts de faim dans les hôpitaux français. Zéro à Saint-Alban.
Le ticket du malade mental était inférieur à celui du malade normal.
Agnès Berthomeu, ancienne monitrice à Laborde.
Il ne pouvait pas survivre avec le ticket. Il fallait trouver d'autres moyens, c'est-à-dire déclarer des tuberculoses, des avitaminoses, des tas de trucs, bon, bref, faire du marché noir, etc. Les gros établissements psychiatriques français, des gros établissements comme Clermont-d'Oise, où il y avait 3000 malades, étaient impossibles à gérer. C'est là qu'il y a eu le plus de morts. Les photos de Clermont-d'Oise sont épouvantables. Dans tout petits établissements comme Rodez, où il y a eu Artaud, qu'on a déménagé de Ville-Évrard à ce moment-là, Rodez, qui était petit, ils avaient au moins à manger.
Il y avait des infirmiers qui revenaient des camps. Et quand ils sont arrivés, là, ils disent, on ne veut pas recommencer. Les hôpitaux, c'est comme des camps. Hein. Donc, ils ont été pris là-dedans, dans les clubs, machin. Et faire une association culturelle d'infirmiers, la chose essentielle, pour les rendre, disons, responsables, puis avoir des avantages, par exemple, pouvoir participer à des congrès, sortir, organiser des groupes. On a organisé du théâtre, une bibliothèque, toutes ces choses-là. C'était un haut niveau culturel, à 24 Saint-Alban. Et c'était un hôpital psychiatrique misérable, en 1940.
Mais en tout cas, moi, j'ai encore vécu l'asile assez traditionnel, tel qu'il était, avec parfois quelques ateliers et tout ça. On était encore au tout début des traitements psychopharmacologiques. Le Largactil existait depuis très très peu. C'est le premier neuroleptique, en somme, qui soit apparu. Après, il y en a eu d'autres, mais en tout cas, à l'époque où je suis rentré, moi, pour la première fois dans un asile psychiatrique, c'était à Maison-Blanche, l'asile était très, très impressionnant. Hein. C'était un lieu de relégation avec très, très peu de traitements, des grillages partout, des camisoles de force, etc. Malgré tout un effort des psychiatres, médecins-chefs des hôpitaux, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de transformer totalement les asiles.
Et c'est en septembre 1949 que Tosquelles me dit, dans une clinique à côté d'ici, la clinique de Saumerie, Solanès devait partir fin septembre 1949 à Caracas, au Venezuela. Donc il demandait un médecin. Donc il m'a envoyé là pour remplacer Solanès. Et j'y suis encore, quoi.
Hein? Vous n'êtes pas resté à Saumerie, hein?
Non, mais je suis resté à Saumerie de septembre 49 à mars 53. Il n'y avait plus rien dans le Loir-et-Cher. Il y avait un hôpital avant la guerre à Blois, un hôpital très très important, psychiatrique, 1200 lits, hein, qui a été complètement liquidé au moment de l'occupation, avec un scandale extraordinaire. Il n'y avait plus aucune psychiatrie dans le Loir-et-Cher, sauf 12 lits à la clinique, c'est un château de Saumerie, adjacent à Chambord. Il n'y avait que 12 malades, là. Et puis alors, j'avais demandé au mois de novembre 1952 à l'administrateur, qui était un type bien, mais il n'était pas libre de ses mouvements, il dit... Saumerie, c'est extraordinaire. Il y a des dépendances, mais il faut faire des travaux. On pourrait faire des ateliers de toutes sortes. Hein. Et puis j'ai dit, écoutez, si dans 6 mois, c'est pas fait, moi, je fous le camp d'ici. Hein. 6 mois après, il m'a dit, rien n'a été fait. Il dit, bon, je pars. Et il avait trouvé un remplaçant que moi, je trouvais pas apte à me remplacer. Je l'ai même foutu dehors manuellement. Et c'était début mars, et je suis parti avec tous les malades. Je suis parti de Saumerie, sur la route. Il y avait 40 malades, il n'y en avait que 33, parce que 7, ils ne pouvaient pas marcher. Et on a été dans des hôtels. Et j'ai prévenu l'ordre des médecins, en disant que mon remplaçant n'est pas fiable. Donc on n'avait rien. Pendant le mois de mars 1953, on était dans des hôtels, sur quoi, puis on cherchait une propriété. Et il s'est trouvé qu'ici, j'ai trouvé la propriété, par hasard, la borde, par hasard.
Et personne ne vous a empêché de partir avec les malades ?
Non, c'était d'accord avec l'ordre des médecins. J'étais bien vu. Et alors je suis entré à la borde, début avril, avec tous les malades et tout le personnel qui me suivait. Donc ça a marché tout de suite. On a fait, comme on faisait à Saint-Alban, un club, des ateliers, des sorties, un tas de choses comme ça, quoi. Une ambiance, quoi. Qui soit pas une ambiance carcérale, quoi. On a fêté, au mois d'avril dernier, les 60 ans de la borde.
On est à peu près
11.
C'est mélangé avec la viande.
Tout mélangé avec la viande.
La volonté d'Oury, c'est que ici, la cuisine, c'est toujours la volonté que ce soit un lieu ouvert et où tout le monde puisse circuler. Et ça, les services vétérinaires, ils n'acceptent plus. Quoi.
C'est pas une émission à la radio qui va le changer. Hein. Restez un peu avec nous pour faire la révolution. Restez un peu avec nous. Thank you.
C'est avec Félix qu'on a créé toute une grille pour éviter le cloisonnement. On a créé ce qu'on appelle des roulements.
Vous êtes combien au jardin ?
Ah, ça te regarde pas.
Pour pas que les gens s'enferment dans leurs tâches.
J'ai compté pour 12.
Ça, c'était la démarche fondamentale de la borde à partir de sa création, très tôt. Hein. C'est celle que Oury a mis en place et que Félix Guattari, qui l'a rejoint très rapidement, également renforcé par sa présence. Donc, à eux deux, ils ont commencé à repenser totalement ce que c'est qu'un lieu de soins.
aujourd'hui, comme on a des stagiaires qui viennent un peu partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des Brésiliens qui ont envie de faire un plat chez eux, une feijoada.
Ah oui, dans un grand plat.
Voilà, c'est un plat avec des haricots noirs, du porc, du riz, des saucisses.
Ah oui, les saucisses.
Et oh,
attends, les saucisses.
Un bout de Brésil, quand même.
C'est depuis ce temps-là que, par exemple, pour pas que les cuisiniers soient tout le temps dans la cuisine, un jour par semaine, il faut autre chose. Un des cuisiniers participe à l'équipe du packing. Un autre, suivant son goût, emmène un groupe de malades faire de l'aviation, là, je sais pas quoi, à Châteauroux. Et un autre emmène les gens au cinéma le jeudi soir, pour pas qu'ils soient enfermés dans la cuisine et qu'ils soient au courant de ce qui se passe ailleurs. Et pour toutes les tâches, la même chose. Ne pas, justement, rester, comme la bureaucratie l'exige, dans le même cadre tout le temps, pour que les gens se connaissent, que ça circule. Avec Félix, on a très bien fait tout ça.
La grille, c'était un emploi du temps dans lequel tous les gens qui travaillaient à la borde devaient circuler. En principe, même les médecins. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de spécialisation. Il n'y avait pas des infirmiers qui s'occupaient que des soins infirmiers, des femmes de ménage qui faisaient que le ménage, un cuisinier qui ne ferait que son travail de cuisinier. Il fallait que tout le monde soit agent de soins, d'une certaine manière aussi. Donc il fallait faire circuler autant que possible, dans un emploi du temps très mobile, tous les gens dans les différentes fonctions. Ça, c'était déjà très révolutionnaire, on pourrait dire, non ?
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demandait, par exemple, aux cuisiniers ou aux femmes de ménage de faire ?
On demandait aux cuisiniers d'être l'animateur d'un atelier cuisine, au fond. C'est-à-dire que, par exemple, les patients puissent aller dans la cuisine, travailler avec lui, l'aider, que lui leur explique des trucs, qu'ils apprennent éventuellement à faire de la cuisine, qu'ils participent aux travaux, etc. Alors que, évidemment, dans un hôpital psychiatrique normal, un patient ne franchit même pas le seuil de la cuisine. Hein. Ça fait partie des lieux dans lesquels il n'a même pas le droit d'entrer. Alors, à la borde, évidemment, il n'y avait pas de porte fermée, pas de clé, une liberté de circulation complète, hein, qui est très très important. Ce que Toscaïès avait appelé la liberté de déambulation.
On écrit les activités de la journée et on la décore avec des crayons en couleur.
C'est vous qui faites le dessin ?
Non, c'est pas moi qui a fait le dessin, je fais juste le coloriage.
Et qu'est-ce qui se passe demain alors ?
Alors, j'ai pas mes lunettes, il se passe beaucoup de choses. Il faudrait que ça soit lui à le dire.
Au fond du parc, le club, rendez-vous des pensionnaires.
Je lis. 7h, 9h, plus cuisine, plus petit déjeuner annulé pour Costraou. 9h, 12h, accueil dans les SAM. 9h, réunion ambiance au parc à l'Ascension. 10h, tabac. 11h, produits d'entretien. 10h à 12h, caisse de dépôt itinérante. 11h, 12h, mise des tables. 12h, repas plus coup de feu. 13h45, rail. 14h.
Il y a beaucoup de malades difficiles qui ont ce qu'on appelle la pragmatique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Il faut les pousser tout le temps, trouver des moyens de les. Pas simplement de les distraire, mais de les intéresser à un tas de trucs. C'est pour ça qu'on fait les clubs. Des quantités d'activités, d'ateliers, de toutes sortes. Il faut une quarantaine d'ateliers différents. Des ateliers classiques comme la poterie ou les promenades, tout ce qu'on peut imaginer dans une vie collective.
18h, mise des tables. 19h, repas et plonge. 20h, bar à thé.
C'est une clinique qui nous permet de faire plein de choses. De la poterie, du tricot, du bricolage, de la peinture sur soie, de l'équitation, de la natation, du multisport, etc., etc. Si tout est libre, personne ne vous oblige à rien. Les activités, elles vous sont proposées, mais elles ne sont pas obligatoires. On peut juste assister à l'activité sans y participer.
Parce que par exemple, actuellement, vous verrez qu'il y a un atelier, il y a toute une part de la boxe et des chevaux. Hein.
Oui.
Et d'équitation.
Il y a beaucoup de bâtiments, hein.
Mais il y a le jardin, il y a le poulailler, et puis il y a même la menuiserie. S'il y a des gens qui seraient tentés de rester au lit, ben on va les voir. Pour le dire, bon, on va jouer aux cartes, il y a un peu de promener, etc. Bon. L'abord, ce que disait Tosquelles, l'abord polydimensionnel. C'est dans toutes les dimensions. C'est pas simplement dire de parler comme ça. C'est le fait qu'ils soient en groupe. Et que les gens, ils se parlent entre eux, ils se soutiennent entre eux, ils se connaissent souvent mieux qu'on les connaît soi-même. Mais à condition qu'ils aient la liberté de parler et qu'ils ne soient pas enfermés ni attachés, comme ça se fait de plus en plus actuellement, hein, dans les hôpitaux classiques. Je ne veux pas insister là-dessus, mais il y a de quoi faire. Hein.
Vous voyez, moi avant, j'étais au Portugal dans une clinique... pour m'en sortir de la toxicodépendance. Et tout était fermé, rien n'était comme ici, et on n'avait pas le droit d'avoir un portable, on n'avait pas le droit d'avoir d'argent sur soi, on n'avait pas le droit à faire des sorties. Et ici, le fait de m'être rendu compte que tout est permis, ça m'a donné une stabilité que je n'avais pas avant. C'est pas fermé, il n'y a pas de blouse blanche. C'est quelque chose de merveilleux.
Réunion d'accueil du 28 juillet 1995. Premier point, la lettre aux familles.
Vous entendez là? Ah bon.
Extrait du documentaire de Nicolas Philibert, La moindre des choses, qui a suivi la préparation du spectacle des pensionnaires de la Borde à l'été 1995.
Invitation pour le 15 août.
Ah, il faut que je lise cette lettre là. Voilà. Ouais. C'était rédigé par le secrétariat du club.
Oui.
Dans la Borde, il y avait des tas d'activités, il y avait des ateliers, il y avait un journal quotidien, par exemple, tenu dans la clinique. Et dans le club, il y avait des tas d'activités, d'initiatives. Le club était une association, loi 1901, une association des pensionnaires. Hein.
Alors, la Borde, le 21 juillet, chers amis du club, voici une petite missive pour vous donner des nouvelles de la vie du club depuis le début de cette année. Comme nous vous l'annoncions dans notre lettre du mois de janvier, on n'écrit pas souvent quand même. Hein, hein. Nos divers projets ont été réalisés. Il y a eu des séjours au sport d'hiver, des journées d'échange avec d'autres clubs, par exemple le CHS Bretonneau de Tours, une journée interclinique au mois de juin, des visites d'exposition. Par exemple, Brancusi. Vous entendez ce que c'est tout?
Oui, docteur.
Ah bon. Pour développer notre travail, votre soutien financier. Voilà. C'est là qu'on voulait en venir. Hein. Comme chaque année, nous vous invitons à la représentation théâtrale d'une pièce de Witold Gombrowicz, opérette, le mardi 15 août à 17h. À cette occasion, nous organiserons une braderie. N'hésitez pas à nous faire parvenir vêtements, bibelots, livres, etc., qui encombrent vos armoires, c'est pas sûr. Ils seront vendus au profit du club, bien amicalement le secrétariat du club, zing zing.
Presque chaque année, il y avait une grande kermesse à la Borde. Hein, on invitait les gens du coin. Moi, j'ai assisté à des kermesses où il y a plus de 1000 personnes qui étaient venues, hein, des alentours. Ça, c'était organisé par le club, essentiellement, hein. Évidemment, les moniteurs aidaient, mais c'était une initiative du club. Bon.
Alors, je vous propose une chose. Je joue l'introduction, vous vous levez, vous chantez debout.
Oui, ok.
Non, ça viendra pas.
Et quand dans votre élan, quand vous êtes debout, vous êtes heureux, vous chantez, vous donnez la voix. Ah, quel bal ce bal.
Commencer à alors aller à la Borde avec des copains le week-end, en visite presque, comme on irait se promener voir des amis en fait.
C'est mieux. Donc tout le monde chante.
On prenait la voiture, on était cinq dedans. On logeait à la cloche de bois, dans les cabanes de stagiaires, dans les greniers, dans les bureaux. Et vite, j'ai fait des spectacles avec les malades pour les fêtes.
Tout le monde.
Finalement, j'étais acceptée pour travailler à la bande, donc d'abord au théâtre. Et il faut dire que par rapport à des acteurs, certains malades dits comme ça psychotiques ont un talent. On pourrait dire une sorte de talent spécial, c'est-à-dire un comédien va faire 36 boulots pour se débarrasser des clichés. Il va bosser, il va bosser, il va bosser. Et eux, d'emblée, pas de clichés.
Il y a quelqu'un ? Une lampe ? Qui ça ? Une lampe ! Le prince ? Chut, chut. Pour l'amour de Dieu, attention! Quel vent? C'est le vent de l'histoire! Où sont-ils tous? Dispersés, perdus! Mais qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre? Allez savoir! C'est bien passé quelque chose? Mais allez savoir quoi? Et la princesse? Ici. Vous la reconnaissez pas? La table, c'est elle! Oh! Que s'est-il passé ? C'est la révolution !
Une fois, on répétait un truc, c'était du vent dans les branches de Sassafras, je crois, de Baldia. Il y a un personnage d'Indien. Il y avait un type, immédiatement, il a fait un aigle. Et c'était fantastique, c'était vraiment ça. Et oui, c'est pas possible. Non, l'entrée. Et ça, c'était vraiment une merveille, ce théâtre.
Mais dites quelque chose ! Auriez-vous perdu la parole ?
Lorsque les choses humaines sont à l'étroit dans les mots, le langage éclate.
Donc après le théâtre, je me suis occupée du journal. Qui était un vrai travail. Hein. On a travaillé sur les mises en page, le graphisme. On a écrit des trucs avec des gens qui savaient ni lire ni écrire, et avec des systèmes de répétition de lettres, par exemple, qui donnaient. Il y avait un type, je me souviens, qui écrivait. Il est là encore, lui, et qui écrivait les bruits. Les bruits de moteur, il aimait beaucoup les bruits de moteur, les bruits d'oiseaux, les bruits du vent. Donc s'il écrivait une histoire, il faisait « le vent dans les fleurs de Thaïlande ». Alors peu à peu, je me sentais extrêmement bien à la bande et extrêmement bien dans la compagnie des malades. Et je me souviens pas d'avoir eu peur.
Oh, papa, dis-toi que je suis dernier de football.
J'y suis arrivé complètement par hasard. J'y ai vécu 3 ans.
Jean-René. Il passait à cheval devant la fenêtre, je voyais un type avec torse nu. C'était... Et puis alors il y avait au clair de lune, près des étangs. C'est un paysage extraordinaire, hein. C'est très romantique ça. Il aimait ça.
Jean-René de Fleurieu, ancien labordien.
C'est un endroit qui m'est paru familier tout de suite. Donc il y avait un nombre invraisemblable de tâches à accomplir, puisque étaient réunis à peu près une centaine de personnes qui y vivaient, une autre centaine de personnes qui y travaillaient. Tout de suite, des tâches évidentes à faire, la vaisselle, passer la serpillière, faire vivre des endroits, des lieux, le jardin, le ravitaillement, la cuisine, des soins, des veilles la nuit, enfin bon, tout ce qui impliquait la vie de cette communauté.
Vous étiez payé par la borne ou vous restiez là?
Vous voulez dire, est-ce que j'étais fou ou...
Non, est-ce que vous êtes resté là comme beaucoup de gens qui avaient l'air de passer, de s'impliquer sans avoir vraiment de statut? Ou est-ce que vous étiez... vous travailliez pour la borne?
J'ai vécu là-bas, c'est des questions auxquelles les labordiens n'aiment pas tellement répondre. D'accord. Ils ne jugent pas utile de répondre à ces questions. Les espaces interstitiels étaient très accueillants.
Et du coup, vous habitiez là-bas, vous dormiez sur place?
Alors, au début, j'habitais à Duison, chez Félix Gautari. Et puis, très vite, je suis allé habiter à la Borde. Ouais, je m'étais trouvé un endroit habitable et vivable, et je m'étais installé.
Il y a eu très tôt la volonté à la Borde de ne pas parler séparément des soignants et des soignés. De considérer que les soignants étaient également en soins, qu'ils le veuillent ou non. Alors parfois, des soignants étaient en analyse, parfois ils ne l'étaient pas, mais il y avait des groupes de parole où ils discutaient entre eux aussi sur leur façon de travailler. Et donc, peu à peu, on a supprimé cette partition entre soignants et soignés, à tel point que Bourri a créé ce terme de soignant-soigné, hein, et qu'il disait au fond la vraie distinction, s'il fallait la maintenir entre les uns et les autres, c'est payant et payé. Hein. C'est-à-dire les malades, c'était ceux qui payaient, ou la sécurité sociale payait pour eux. Et les thérapeutes, les infirmiers, les médecins, etc., c'était les payés. Par exemple, à l'époque où je suis arrivé, il y avait déjà un ou deux pensionnaires qui étaient devenus moniteurs. Chose extrêmement rare à ma connaissance, pas seulement en France, mais où que ce soit. Il y a peu d'endroits psychiatriques où les gens soignés sont devenus des soignants. Pour moi, ça a été une très très grande expérience.
Un infirmier qui n'est pas soigné par un malade, c'est pas un infirmier. Si on se croit indemne, si on se croit supérieur, c'est qu'on est encore plus fou que les gens dont on s'occupe. Il n'y a pas de distinction.
Oui, c'est surtout de donner aussi aux gens qui soignent la possibilité de se défaire de toute une série d'a priori identitaire, d'attitude de savoir ou d'attitude de domination, parce que quand même très très longtemps, les psychiatres dans les hôpitaux, c'était les maîtres à bord, hein, point. Les patients étaient donc traités contre leur volonté, sans arrêt, de façon parfois extrêmement violente. Hein. Et il fallait sortir complètement de ça, l'idée de se centrer autour de l'exigence psychanalytique, c'est de recentrer malgré tout la relation avec les patients du côté de la parole. Hein. C'est quand même d'entrer dans un monde psychothérapeutique où l'essentiel des traitements, c'est d'abord de rentrer en relation avec, de parler avec. Il s'agira d'abord et avant tout d'établir des relations de transfert avec les pensionnaires. Hein. Et pouvoir parler avec eux, pouvoir créer des lieux de parole, donc de permettre d'entrer véritablement en relation avec le délire des gens, ou avec leurs difficultés, avec leur dépression, etc. Et de pouvoir donc travailler ça, mais de façon intersubjective, on pourrait dire. Et non pas simplement en donnant des pilules, des médicaments, des choses comme ça.
Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ange, bonjour Bruno. Voilà, c'est des personnes de France Culture qui sont venues interviewer le docteur Houry et qui prennent juste du son pour les bruits de notre vie quotidienne.
J'ai enregistré, là. Ah, j'aime beaucoup France Culture. Marc Boincher. J'ai même connu Alain Truta.
Ah, il va parler le chat.
Là, c'est mon boss étudiant. C'est mon boss de radio, mon CD.
Allez, petit chat, raconte ta vie.
Tu sais, tu m'as énergé, ton radio, c'est comme ça.
Hier, on est allé voir au théâtre à Lohengrin à Blois, on est allé voir la pièce de théâtre En attendant Godot. Une performance orale et physique. une performance orale et physique. Merci.
Il n'y a pas les soignants d'un côté qui mangent d'un côté et puis les patients de l'autre. On prend, comme là ce midi, on prend tous les repas ensemble, qu'on soit médecin, infirmier, patient. Ils participent au service de table, ils participent à aider les cuisiniers à faire la cuisine.
Ce serait bien que tout le monde soit ensemble.
Elles vont se faire tuer.
Moi, je suis là depuis 10 mois, depuis le mois de mars, en fait.
Marie, psychiatre à la Borde.
Voilà. J'ai bossé avant dans plusieurs institutions, à l'hôpital. J'ai passé le concours de PH pour travailler à l'hôpital. Puis finalement, j'ai quitté l'hôpital. J'ai été dans un centre de... un CMP pour enfants en pédopsychiatrie. Dans une institution, une maison d'enfants à caractère social, et puis dans une institution pour adultes psychotiques à Caen, où on bossait avec la psychothérapie institutionnelle déjà, comme ici. Enfin, comme ici, pas comme ici, mais en tout cas avec ces outils-là, qui ne sont pas si fréquemment utilisés, l'outil de la psychothérapie institutionnelle, les concepts à l'hôpital psychiatrique, par exemple, étonnamment... On ne veut pas trop en entendre parler, de mon expérience, étonnamment, de mon point de vue.
Et qu'est-ce que ça fait de travailler ici ?
Ben moi, je suis contente. C'est très vivant, quoi. C'est très vivant, et donc c'est pas facile non plus, enfin, parce que c'est très mouvementé dans le travail. Enfin, comment dire ? On est assez pris par le travail ici, par les rencontres, et du coup, et par la question de l'institution, savoir comment ça va évoluer, est-ce que ça va, est-ce que c'est suffisamment bien, est-ce qu'on soigne suffisamment correctement, avec toutes les incertitudes et les questionnements de comment ça peut évoluer, quoi. Je trouve que c'est très présent, ça.
Et en plus, de ce qu'on voit, vous êtes très... Enfin, vous passez beaucoup de temps avec les patients, vous déjeunez avec eux. Quand on se promène, on ne fait pas la différence entre les soignants et les patients. Vous n'avez pas de signe distinctif et du coup, c'est sans doute une autre implication.
Ouais, ça c'est... Oui, ça, c'est très, très spécifique, je pense, de la Borde. Par rapport à l'hôpital, par exemple, où les soignants, déjà, ils ont des blouses blanches. Et ici, la question du rapport humain... du rapport de la folie qui nous concerne tous, il est beaucoup plus présent. Enfin, c'est Uri qui dit bien, qui essaye d'enlever un peu ses frontières soignant-soignés. Bon, question de la folie, elle nous interroge tous. Et je trouve qu'ici, effectivement, ça mobilise. C'est pour ça que c'est plus... que c'est peut-être plus dérangeant ou que c'est plus remuant, même dans le travail, parce que ça interroge toujours.
Et je tiens aussi à rendre un grand hommage à ce que je tiens pour parmi le plus grand burlesque de tous les temps, à savoir Max Linder. Max Linder. Merci, merci.
Ça va.
On dira que ça va.
Et Maurice, mon ami. La princesse, c'est vous, oui.
Maurice, mon ami, c'est étrange. La curiosité me démange. Que peut-il y avoir, non, c'est ça. Si j'y allais voir, je sais pas si c'est ça. Prudence, ne fouillons pas. Soyons discrets, c'est plus sûr.
Les tabourets de George Weston.
Oui, on partage tous les mêmes rythmes avec des problèmes singuliers et personnels, avec des crises plus ou moins importantes, des souffrances plus ou moins visibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas vraiment parler de la beauté du lieu, parce que ce serait faire insulte à toute la souffrance des gens et passer à côté de cette dimension qui était parfois difficilement soutenable.
C'est des malades aussi, au moins aussi gravement atteints que dans les hôpitaux les plus classiques. Il y a tout. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle polydimensionnel, à tout point de vue. Pour qu'il puisse y avoir une ambiance, il faut qu'il y ait de l'hétérogénéité. Il ne faut pas que les gens se ressemblent. Sinon, ça fait des armées de fonctionnaires. Quoi. Et des malades très différents, d'être agités, des mélancoliques, des schizophrènes, des maniaques, et en même temps une consultation énorme.
Et on a fait des consultations de jour.
Ici, tout le temps, tous les jours. 7 jours sur 7.
Ah ouais. Vous avez mangé là ?
On a mangé là.
Ah ouais.
C'était bon.
C'était bon ? Ouais, c'est bon ce midi. J'ai bien aimé le riz et les haricots. Et puis sinon, à part ça, ben. Je suis arrivé ici en 84. Puis ça fait depuis plus de 20 ans que je fais de l'apiculture. Les ruches, elles sont à l'entrée de la borne. Quand vous sortez. Avant le stop, vous regardez sur la droite, vous verrez les ruches. Il y a des abeilles dans chaque ruche.
Vous vous appelez comment ?
Jacques.
C'est lui qui est arrivé, il avait 15 ans, 16 ans. Hein. Autiste. Il est dans un état.
Ici, là, c'est la miellerie, c'est là où j'extrais le miel. Et puis ici, là, c'est... Ici, là, je répare les ruches. La pluie, elle, avec le vent, elle rentrait à l'intérieur. Elle rentrait, tombait en biais, ça mouillait les ruches. Et ben, en ce moment, je fais un bardage. Et après, toutes les ruches, je vais les mettre au fond. Et ça me fera de la place à l'intérieur pour travailler. Et puis, ça, c'est pour suspendre les cadres. Je suis en train de faire d'aménager l'espace.
Et il explique parfaitement bien ce qu'il fait là. Mais c'est tout ce qu'il fait, hein. On le voit pas tellement ailleurs, hein. Il s'est transformé en abeille, quoi.
Je sais pas. Quand je faisais l'apiculture il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Eh ben, la seule chose que je faisais, c'était de poser des hausses sur la ruche au bon moment. Et puis elle remplissait de miel. Et puis des fois, je capturais les essaims. Et puis maintenant des essaims sauvages, on n'en voit plus. Et alors, faut faire des essaims à partir des bonnes ruches. Et les colonies, elles sont moins... Les reines, elles sont moins robustes qu'avant. J'aimerais bien un jour apprendre à faire un élevage de reines. Ça complique les choses, mais ce qui est bizarre, c'est que l'homme, il est intelligent. Et du moins, intelligent, il y en a qui sont un peu cons, mais pas tous. Mais l'homme, il est intelligent et. L'apiculture, avant, c'était simple. La nature faisait tout. Et maintenant, l'homme, il détruit la nature. Alors, ça complique l'apiculture. L'apiculture, ça marche moins bien qu'avant, mais je me décourage pas. Et alors, je continue. Voilà.
Moi, je suis d'origine de la région parisienne, à la Garenne. La Garenne-Colombes, près des terrains vagues entre Nanterre et la Garenne. Ça compte beaucoup, les terrains vagues. Mais le poulailler, là, hein. Mais les terrains vagues, je les retrouve au poulailler. Pour moi, c'est la plaine de Nanterre. C'est des arrière-mondes.
Tant cruel, quelle rigueur, rien n'égale.
Mongolien de première génération, idiot de père en fils, depuis la tour de beurre, Infecte en général, incapable à mes heures, je cherche aux quatre vents la fin de la chanson. Issue d'une copulation impensable, biologiquement indéfinissable, je fus grugée, trahie d'avance par le destin, les mains moites et vides et ma vie dans mes mains. J'ai germé et poussé dans les champs de poubelle, puis de poubelle en vide et de vide en poubelle. J'ai promené ma gueule à la face du monde et le monde a tremblé dessus ses catacombes. Mongolien de première génération, idiot de père en fils, depuis la tour de beurre, infect en général, incapable à mes heures, j'ai cherché trop longtemps la fin de ma chanson.
J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sort cruel, quelle rigueur, je succombe à ma douleur, à ma douleur, à ma douleur.
Ah bah.
Il est allé se réchauffer à l'église.
Ah non, on n'a pas la clé, nous.
Ah, c'est ouvert.
Ah, c'est ouvert. François, tu as mis mon tableau à l'envers.
On est à Courcheverny, donc à la galerie du club de la Borde.
C'est le club de la Borde qui s'occupe de la galerie.
Ouais.
Qui l'a mis. Et donc là, c'est les tableaux qui sont exposés.
Il l'a mis à l'envers.
Là, il y a deux artistes de la Borde qui viennent peindre dans mon atelier depuis longtemps.
Depuis très longtemps.
Et vous exposez là, à
la
galerie ?
Oui, absolument. J'expose trois tableaux. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Un fond bleu. On y voit ce qu'on veut bien y voir.
Et vous y voyez quoi ?
Je ne sais pas. Peut-être mes tourments.
Il y a des grands traits.
C'est une période
aussi
où j'étais très tourmentée. Donc évidemment, ça se reflète dans la peinture, quand on est tourmenté. Et puis après, on est plus apaisé, puis voilà. C'est pour moi de l'art-thérapie, ce que fait François. C'est nous aider à aller mieux, avec l'art. Ça pourrait être aussi dans la sculpture, où on peut s'épanouir aussi dans la sculpture, dans les gestes ou dans le chant. Je pourrais aussi chanter, mais je ne sais pas chanter. C'est malheureux. Moi qui adore l'opéra. Je ne sais pas chanter, mais j'aurais pu m'exprimer dans le chant. Mais je me suis exprimée dans la peinture et dans les collages. Je fais des collages aussi.
Mais vous saviez peindre avant ?
Non, pas du tout.
Vous pourriez apprendre à chanter ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Tu joues du piano un peu, non ?
Oh non.
Ah, vas-y, joue des trucs.
Je veux jamais jouer d'instrument.
Bah, tu appuies là. Sur une blanche, plutôt.
Appuie sur les deux.
Tu peux laisser les doigts dessus, hein.
Oui, mais appuie sur les deux à la fois.
Mais t'as des doigts trop gros. Voilà, ça vient.
Ah, moi, quoi, c'est grave et assez aigu.
Ouais.
C'est ça?
Ouais.
C'est ce qui comptait beaucoup dans les hôpitaux. Et avec Toscaïès, on avait tout un groupe d'infirmiers extraordinaires. Hein. C'était qu'il y ait un diplôme, un stage d'infirmier, et que les infirmiers passent 3 ans dans un hôpital avec la pratique de l'hôpital. Alors l'école d'infirmiers était fermée en 87. Il n'y a plus du tout d'infirmiers psychiatriques. Ils prennent des infirmiers DE. Un infirmier DE, ils vont, pendant toutes leurs études, 1 mois dans un lieu psychiatrique quelconque, sans aucune formation. Ils nous obligent à prendre des infirmiers, quelques infirmiers d'État. qui n'ont aucune formation psychiatrique. On peut dire là, c'est une destruction massive de la psychiatrie, ça. Avec en même temps les préjugés que les malades sont dangereux, c'est presque des criminels, il faut les enfermer, enfin, etc., etc., quoi. Sans aucune prise en charge du milieu asilaire, si on peut dire, qui peut être un milieu extraordinaire de vie, d'échange, de responsabilité partagée, enfin, des quantités de choses comme ça, qui font partie du traitement. Quand on a la visite on peut le dire, de la haute autorité, hein, c'est des gens incompétents, qui savent rien du tout, et qui nous obligent à faire des trucs. Ils savent rien de la psychiatrie. Et c'est eux qui sont chargés de faire des enquêtes sur la psychiatrie. On en a eu encore cette année, et ça bouleverse tout le monde. Hein. On peut dire que c'est vraiment un fléau, quoi. Hein. Ils n'ont pas de compétences sur le travail de psychiatrie, il faut bien dire. Hein. Et que tout vire vers une bureaucratisation. Alors, on voit bien, il faut remplir des feuilles. Hein. Et quand ils se sont pris alors à la cuisine, ça nous a obligés de dépenser beaucoup de fric pour modifier un escalier, pour mettre une table comme ci, comme ça, etc. Hein. Il fallait calculer, par exemple, dans le service, les toilettes, les chiottes, les machins, les lavabos, savoir à quelle hauteur on doit mettre la lampe, à quelle hauteur faut mettre le savon. Est-ce qu'il faut mettre un essuie-main ou un séchoir ou... Passer des heures à faire des conneries comme ça. Hein. Bon, on va pas entrer dans le détail. Hein. Mais c'est des interventions, à mon avis, de gens incompétents, qui ont un pouvoir. Pendant ce temps-là, on s'occupe pas des malades.
Et du coup, comment vous imaginez que ça puisse continuer? Comment on peut résister à ça? Et comment vous imaginez l'avenir de la Borde?
Oh, la Borde, ils n'osent pas y toucher trop pour l'instant. Il y a quand même cette page-là que je suis connu dans le monde entier. Je préviendrai tout le monde. Hein. Et puis j'écrirai dans la presse.
Oh! Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, où en serons-nous? Où ira le temps?
Et alors?
Vers où, vers quoi? Dans quel but, dans quel sens?
Eh bien, au galop. Ça me dans ma tête, le trône est rien, c'est le galop seul qui me possède, et peu renombre à vachon. Le galop, c'est mon rêve, galope, galope ou crève, le galop, c'est ma loi, c'est moi.
C'était La Borde, une clinique psychiatrique toujours hors normes.
La vie, c'est la population. Le prince et la princesse malade. Pris des habitants de la.
Avec Jean Houry, Coda, Jean-Claude Polac, Paola, Agnès Berthomeux, Salima, Jean-René de Fleurieux, Jacques, Marie et François Millet. Merci à tous ceux, soignants et soignées, qui ont pris le temps de nous parler, de nous laisser entrer dans leur vie. Merci à Emmanuel Guattari, Lucien Martin et François Prenant. Merci à Nicolas Philibert pour son très beau film, La moindre des choses, dont sont extraits les passages musicaux, la discussion sur le club, les répétitions du spectacle et le chant de Ridis. Enfin, une pensée tendre pour mon père, Alain Aptekman, dont j'ai découvert qu'il avait lui aussi à sa façon trouvé refuge à La Borde. Trop mouvant pour y prendre racine, ça ne m'étonne pas qu'il ait trouvé un peu de répit et de liberté en compagnie des fous. Prise de son, Yves Lehors, mixage, Olivier Dupré, attaché d'émission, Christine Bernard et Eve Etienne, coordination, Irène Omelianenko, un documentaire de Jeanne Aptekman, réalisé par Christine Robert, pour Sur les Docs.
Cette émission a été diffusée le 10 avril 2014 sur France Culture.